embouteillage sur le canal 72-72.
Bonjour à tous, Radio Ponton, nous sommes chez Gitana à Lorient, je suis avec Charles Caudrelier et Franck Camas, qui vont nous parler un peu de la saison passée, de la saison qui commence, et puis peut-être développer un peu sur le bateau, sur ce développement futur, sur les histoires d'asservissement notamment, on va parler de tout ça. Bonjour Charles, bonjour Franck.
Bonjour.
On peut revenir un peu sur la Bresse Atlantique. Nous, c'était un super spectacle, pour nous le public. On a l'impression que c'était un peu un galop d'essai, première grande nave ensemble, sur ce bateau-là en tout cas.
On l'a pas pris comme un galop d'essai, hein.
Non.
Sur tout de suite.
Non, mais en compète.
En compète, c'était une belle course et quand on est sur la ligne de départ, avec un bateau comme ça, un team derrière nous, on a envie de la gagner. Donc non, pas un galop d'essai, mais le vrai objectif de l'an dernier, on va dire.
Ça validait des trucs, quoi.
Ouais, ça validait notre prise en main du bateau et puis aussi quelques améliorations qu'on a fait depuis qu'on est arrivé. Donc on était arrivé en mai, le départ était en octobre, je crois. Donc c'est vrai qu'on a vite... l'équipe connaissait bien son bateau, on a vite découvert le bateau grâce à eux et puis on a trouvé certains défauts, des problèmes qu'il y avait sur le bateau un peu depuis l'origine qui n'avait pas forcément été bien résolu parce qu'il y avait eu d'autres problèmes plus graves avant. Donc c'est vrai que le bateau sortait d'un gros coup dur après la route du Rhum où il avait perdu son flotteur, le bateau renforcé. Mais très, était déjà bien abouti, il avait 2 ans, il arrivait à maturité. Donc on est arrivé sur un bateau quand même extrêmement performant et fiable et on a juste essayé de le faire progresser.
Quoi. Et du point de vue du public, la com, enfin les films de Yann Rioux étaient vraiment top. Et puis avec l'impression que vous viviez bien ensemble. Il montrait dans le film un moment où vous vous engueulez un peu, et puis c'est pas grave, donc enfin, ce côté-là était aussi sympa, quoi.
Ben, je pense que c'est une des parties intéressantes pour le public, de connaître ce qui se passe humainement à bord, et pas que la performance extérieure du bateau, et c'est vrai que...
Ouais, ça rendait humain, ces bateaux sont un côté surhumain, et là ça rendait le truc...
Il y a forcément l'humain qui est très important lorsqu'on mène ces bateaux à haute vitesse, avec le stress, l'inconfort... qui existe, donc d'avoir un médiaman dont le travail c'est de rapporter ce qui se passe humainement à bord, c'est parfait. C'est la première fois en France qu'il y avait un médiaman et nous ça nous libère de cette partie là parce que on demande de plus en plus aux skippers, même à ceux qui font le Vendée Globe en solo, de rapporter, de filmer, etc. Et c'est un vrai boulot. On n'est pas des professionnels là-dessus, et donc Yann, c'est bien mieux le faire que nous. Et en plus, contrairement à ce que disent certains, au contraire, ça raconte beaucoup. Il y a beaucoup plus de transparence et de vérité, parce que le skipper, quand il le fait lui-même, il a toujours envie de filtrer et de émettre ce qu'il a envie d'émettre, et non pas d'émettre forcément ce qui est collé à la réalité.
Là, on apprend comment on peut se doucher sur un trampoline, par exemple.
Voilà, ouais, ça il faut demander à Charles.
Mise en scène, je fais ma douche comme ça, mais on le fait vraiment. On le fait vraiment comme ça. J'ai découvert, parce qu'en fait sur ce bateau, on a très peu d'eau par rapport à la Volvo. On fait tout le temps sur le pont, et là on a très peu d'eau. Et j'avais enfin trouvé l'endroit pour me doucher. Mais ce que dit Franck est exact, parce que j'ai entendu beaucoup de critiques sur Mediaman, c'est plus beau sans doute. Mais je crois qu'il n'y a jamais eu une telle vérité. J'ai jamais eu autant de retours. D'habitude, quand on fait une course, on parle. Les gens me félicitent quand on l'a gagné, juste pour la performance. Mais là, j'ai eu plus de retours et de gens qui ont suivi, qui m'ont dit j'ai suivi avec mes enfants sont passionnés, parce qu'il y avait des sujets incroyables, et que, comme dit Franck, on n'est pas dans la mise en scène, forcément quand tu te filmes toi-même, tu choisis, c'est le selfie, et là, il y a quelque chose de spontané, et une qualité d'image incroyable,
oui.
Et des images extérieures en plus, qu'on n'avait pas avant. Quoi.
Mais même s'il y a la mise en scène, voilà, pour nous c'est des bateaux vu l'extérieur qui sont surhumains, et ça c'est pas voir qu'à bord, c'est pas des Robocop, faut se laver, on s'engueule un peu, on se machin, et...
Ouais, et il y a peu de mise en scène, mine de rien. L'activité fait que le scénario et la mise en scène est déjà faite.
Et alors après, cette course étant faite et gagnée, comment la transition vers un projet d'équipage, donc le trophée Jules Verne, comment ça se passe, le recrutement, est-ce qu'aussi il y a des changements de configuration sur le bateau, sur le plan de pont?
Déjà, c'était une course en double et au final en triple avec ce Mediaman. Donc là, on va en parler, mais Yann est aussi à bord pour le trophée Jules Verne. Donc il suffisait de trouver trois autres personnes, ce qui n'est pas beaucoup, parce qu'on a aussi décidé, et c'est le cas sur ces nouveaux bateaux, de partir à des équipages assez réduits par rapport à ce qu'on faisait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était quasiment 14 sur Banque Populaire, nous c'était 10, il y a eu 14 aussi sur Orange avec Bruno Perron. IDEC est revenu et a montré que c'est peut-être plus performant de partir en mode light avec des équipages moins nombreux, avec l'utilisation du pilote automatique aussi sur IDEC, que nous on n'a pas du tout fait, on n'avait même pas embarqué de pilote automatique à l'époque. Donc c'était plus dans un fonctionnement équipage comme à la Volvo Ocean Race qu'on avait fait. Et là, c'est un peu un mix, c'est vrai, entre un fonctionnement équipage pur et un fonctionnement équipage très réduit en double. Donc c'est un peu entre les deux.
Donc vous serez 6, médiamans compris.
Oui.
Et alors comment le recrutement, c'est du réseau, c'est une sélection, vous avez une liste
ça a été assez rapide puisque on savait à peu près les compétences qu'on recherchait. Et puis on avait donc on était déjà 3, parce que Yann fait partie de l'équipe, c'est indispensable. Yann en plus a l'avantage de savoir naviguer, donc il peut faire médiaman et navigant. C'est pour ça qu'on s'est dit aussi on va partir qu'à 6, puisqu'il est, avant de faire de ça, il était déjà très bon navigant. Et puis dans les projets de Franck au niveau de la perf, c'est quelqu'un qui est très focalisé. Ouais. Et puis quand il a suivi ses Volvo, il est quand même toujours très orienté performance.
Et vous savez qu'il supporte physiquement aussi ces choses-là, c'est pas donné.
Ouais, bon, c'est un bon marin, ouais. On le sait quoi. Après, on a...
L'école de la Volvo est parfaite hein, pour ouais, ça. Ouais. Quand on arrive à traverser la Volvo et dans le confort de la Volvo, on est capable de faire beaucoup.
Et après, vous faut un navigateur ou...
Non, après, on voulait des gens qui. C'est des bateaux qui vont vite et qui se barrent, et les différences entre les bons barreurs et les mauvais barreurs sont importantes. On va chercher des profils de gens qui savent faire avancer des bateaux vite, et c'est là où Morgan Lagravière, qu'on connaissait un peu, qui est réputé pour ça et qui aime tout ce qui glisse, tout ce qui vole. Dans tous les supports, elle s'est imposée assez rapidement. On l'a essayé et ça a bien fonctionné. Après, on a récupéré une personne qu'on connaissait bien, Franck et moi, c'était Erwan Israël, qui a fait la Volvo avec nous et qu'on apprécie pour son analyse de performance et tout ce côté navigation qu'il maîtrise très bien aussi, puisqu'il était. Et puis, il a l'expérience du trophée Jules Verne à travers Spindrift. Et puis, on a trouvé à rencontrer David Boileau, qui fait partie de l'équipe que moi je connaissais bien, qui est le beau capitaine du bateau et qui connaît le bateau parfaitement et qui en plus est un bon marin, donc il s'est imposé facilement et finalement on n'a pas eu beaucoup de choix à faire. Et puis on a pris un remplaçant à travers Yann Eliès, qui est un peu capable de remplacer tout le monde, qui sait un peu tout faire par son passé solo.
Donc si c'est pas mal, voilà. il y a quelqu'un tombe malade. Okay.
Donc il faut un mix de bons marins et en même temps le fait qu'il y ait le beau capitaine, ça va être la boîte à outils qui va permettre de préparer, parce qu'on a vu que c'est des bateaux aussi. Où il peut y avoir de la carte.
C'est des bateaux très complexes, de plus en plus complexes, il y a de plus en plus de systèmes. Et donc l'équipage est plutôt une addition de spécialistes plutôt qu'une addition de gens polyvalents. Je pense que c'est pas du tout. C'est ça qui a bien changé par rapport à 15 ans, voire 30 ans avec Bruno Perron, son premier défi. C'était si Yann Eliès à l'époque qu'on aurait pu prendre à bord. Là, c'est pas le cas. Chacun a ses spécialités. Chacun est très bon dans sa spécialité et on essaye d'additionner nos compétences comme ça. Quoi.
Et votre routeur ?
Et notre routeur, c'est Marcel Van Trist, toujours, qui était avec nous à la Bresse Atlantique et qui a été un ingrédient très fort de la victoire. Donc on a confiance en lui et on fonctionne bien avec lui. Il y a des discussions qui peuvent être assez longues parce que Charles comme moi, on met bien le nez dans la navigation et dans le routage. Et donc à trois, on essaye d'avoir la meilleure réponse. C'est pour ça que les discussions peuvent être longues. On n'a pas cette organisation d'être téléguidé. Et ça peut arriver dans certaines courses avec des skippers qui le souhaitent. Mais nous, c'est plutôt des décisions collégiales qu'on essaye de prendre.
Vous arrivez à prendre des décisions collégiales en mer Oui, on l'a vu, on remarque sur la...
95% du temps, oui. Après, dans toute discussion, si elle est riche, c'est qu'à un moment, il y a des avis qui s'affrontent. C'est là où il faut être malin et utiliser cette richesse pour avoir la meilleure réponse. Quoi.
Sur la vie à bord, comment ça va s'organiser ? Alors, est-ce que le bateau va être modifié pour l'équipage ? Est-ce que vous savez déjà un peu comment les cartes vont tourner ?
Ouais, il est très peu modifié en fait. Il a été modifié en début d'année pour que Franck fasse la course en solitaire, parce que là on l'a adapté. Mais finalement, qu'on navigue à 2, 3 ou 6, ce qui change, c'est un peu plus de bannettes. Et on a juste déplacé la cuisine qui est d'habitude à l'étage parce qu'on vivait à trois et cette mer, on l'a mis en bas, une cuisine d'équipage, avec des, comme il y a des cars. Et, et voilà, donc le bateau n'est pas extrêmement changé. Hein, c'est deux baleines de plus et une cuisine un peu plus grande en bas et plus de nourriture à bord à stocker. Mais
il y a plus de vie à l'intérieur. Voilà. Ouais, par exemple, à Brest-Atlantique, je crois que j'ai dû rentrer, si on additionne le nombre de minutes, moins de 30 minutes à l'intérieur du bateau.
Ouais.
J'ai aucune raison de rentrer à l'intérieur du bateau. Donc là, par contre, on dort à l'intérieur, on fait la cuisine à l'intérieur, on fait des rotations à l'intérieur. Et donc, on essaye de jamais être trop souvent les deux ensemble en même temps. Du coup, il y a toujours une présence de Charles ou moi sur le pont en activité, soit à la barre, soit au réglage pour contrôler et faire un suivi de stratégie et météo aussi. Et ensuite, les décisions, mais on est un peu tous les trois avec Marseille à étudier la route et à prendre notre choix.
Et là, avec donc ces six-là, comment se passent les entraînements? J'imagine que vous avez déjà navigué tous ensemble.
Alors, mine de rien, on a gardé l'équipage du Fastnet, donc notre première course qu'on a fait avec Gitana, mais qu'on a gagné d'ailleurs. Et on a gardé cet équipage-là depuis. On a
été c'est les mêmes, d'accord.
Et finalement, c'est les mêmes. Et donc, on a fait déjà des courses. Évidemment, on s'est entraîné de longues journées et de grands entraînements au large. Donc, il n'y a que le système de car. On a fait la Dream Cup aussi. Il n'y a que le système de car où on essaye un peu d'évoluer et de trouver le bon compromis. Mais là, on a l'air de fonctionner pas trop
mal. On fait des cartes tournantes en fait. Hein, pour essayer que tout le monde se croise. Plutôt que d'avoir des groupes, tu vois, qui ne se croisent jamais. Et en fait, on fait ça sur la Volvo. Ça te permet d'avoir une continuité. Parce que là, le système ancien où tu as 4 mecs qui montent, 4 mecs qui arrivent et qui prennent le relais. En fait, il n'y a pas de suivi, les mecs, ils ont pas vu ce qui s'est passé.
Il y a beaucoup de coupures.
Donc,
coupure.
Là, tu renouvelles deux par deux, par exemple?
Non, un par un. Carrément, par un. Toutes les heures, il y a un mec qui tourne. Donc, ce qui fait qu'on est quasiment tous, on se croise tous quasiment.
Finalement, sans Charles et moi, on se croise.
T'as toujours un mec en opposé avec toi.
Le seul inconvénient, c'est que tu n'as jamais le même rythme de sommeil, de repos, quoi.
Si. Chacun a le même nombre de repos, le même nombre de stand-by, le même nombre d'activité. Pas aux mêmes heures, évidemment.
Ouais. C'était un car fixe.
T'as bien calculé, ça dépend du nombre d'équipiers, mais la rotation elle n'est pas sur 24 heures.
Elle est sur
25-26.
Mais c'est quand même régulier, c'est 2 heures on, 1 heure de stand-by.
C'est toujours régulier.
2 heures off, tu vois, et 2 heures on, 2 heures 1 heure. Donc c'est juste que là on se décale dans le temps parce qu'à 6 ça ne fonctionne pas sur 24 heures. Ce qui est un peu pénible parce que des fois on ne sait plus trop à quelle heure on est de car. Donc il faut bien regarder l'heure où tu commences ton car parce que tu ne peux pas dire moi je suis de car de minuit à 2. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais,
okay. Mais par contre, du coup, les quarts difficiles de fin de nuit sont pas faits toujours par la même personne.
De toute façon, en retard.
Ça qui est bien aussi.
De toute façon, en retard, vous pouvez pas dormir, alors ça change pas grand-chose. si vous y arrivez.
Et alors, concrètement, sur le pont, il y en a un qui est à la barre et deux autres qui sont.
Concrètement, il y a deux personnes en activité, effectivement, et les deux, ils s'organisent comme ils veulent. Entre un qui barre ou un qui. Barre au pilote, ça veut dire qu'il est responsable du réglage du pilote quelque part, et un qui est en surveillance sur l'écoute en cas de choqué. Quoi.
Et l'autre, il va être en surveillance sur les appendices
Ouais, c'est ça, écoute, appendice, il est un peu au service de celui qui barre et qui demande, mets-moi un peu plus de ça, un peu plus de ça. Et voilà.
Et alors, la barre est assez haute, hein, évidemment, avec idée. Et alors, moi, ce que c'est une question assez naïve, hein, mais je pense que Edmond Rothschild a un plus gros potentiel de vitesse que Hideck sur le papier. Après, à un moment donné, c'est un peu la vitesse des systèmes météo, non, qui devient, qui vous permet de battre le record, d'aller plus vite.
La vitesse et l'enchaînement.
Et la trajectoire.
Parce que finalement, Hideck, c'est Marcel qui l'a routé. Il dit, les gars, et le record, croyez-moi, il est dur à battre parce qu'il a eu la météo du siècle.
Il a
eu un enchaînement. Ouais. Et on se rend compte quand on fait les statistiques de routage que les records quand ils sont battus, c'est pas les routes où les bateaux ont été le plus vite, c'est souvent, il y a des routes où les bateaux étaient plus vite sur l'eau, c'est les routes où ils ont fait le moins de distance.
Ouais.
Donc c'est important parce que tu descends de l'Atlantique Sud, tu peux vite faire 1500 milles de plus parce que tu n'as pas la route par rapport à la route des decks. Et après dans l'Atlantique, quand tu es dans le Grand Sud, les decks ils étaient tout droit quasiment. Si tu te retrouves à tirer des bords, bah, tu connais la règle, hein, au portant. Enfin, quand tu tires des bords, c'est deux fois la distance, trois fois le temps, on dit. Donc,
Un peu moins sur nos bateaux.
Mais,
bon. parce que ça va tellement vite au prêt. Mais surtout, c'est qu'on est très lié au déplacement des systèmes météo autour de l'Antarctique, ça c'est sûr, et donc ça sert à rien. On va largement tous assez vite, ceux qui tentent le record depuis 15 ans, pour suivre les systèmes météo dans le sud. Donc c'est pas là où on peut gagner. Où on peut gagner dans le sud, c'est de la chance. Le système météo qui avance, à la place d'avancer à 28 nœuds, il avance à 32 et du coup on gagne un peu de temps. Et surtout il reste avec nous, c'est ce qu'a fait IDEC, il a pris une dépression à Rio. Au Cap Lewin, il avait toujours la même dépression quand même. C'est assez extraordinaire, je pense qu'il est resté sous son nuage, il est allé jusqu'au bout avec le même nuage, quoi, le même front. Et du coup il allait tout droit, il n'a pas eu de transition à faire. Mais ça ne sert à rien dans la situation d'IDEC d'aller plus vite qu'IDEC par exemple. Plus vite qu'IDEC, ça veut dire rattraper la dorsale qui est devant et donc refréner et reattendre ce qui se passe derrière.
En revanche, je peux vous
donc par contre, monter et descendre l'Atlantique, c'est là où on peut gagner. Et c'est pour ça que la fenêtre, c'est super important d'avoir la bonne fenêtre, puisque la fenêtre, on la regarde jusqu'à Cap de Bonne-Espérance sur les 10 premiers jours. Donc c'est là où on peut gagner un jour, peut-être. Et la remontée, où là, c'est un peu le hasard, parce que la remontée, on n'a pas de vision, de la météo. Et par contre, on a un bateau dans ces zones de transition, dans ces zones de pré qu'il peut y avoir le long de l'Amérique, qui est très bon. Ça, c'est sûr. On a un avantage par rapport à IDEC là-dessus. Mais la différence météo fera toujours plus d'avantages.
Et quand on parle de réduire la distance, ça veut dire aussi aller sud. Vous fixez des limites là-dessus, le suivi des glaces.
C'est très compliqué parce qu'en fait, c'est vrai que plus ça va, moins on va sud. Parce que. Est-ce qu'il y a plus de glace ou est-ce qu'on voit mieux les glaces qu'avant? Alors avant on y allait inconsciemment, peu inconscient par exemple, en étant inconscient, je ne sais pas, effectivement il y a une prise de risque, on l'a vu entre IDEC et Spindrift, ils ont fait des choix différents et IDEC a gagné en allant dans le sud parce qu'il a pris plus de risques. Et c'est compliqué parce qu'en fait, soit tu vas vraiment très sud, soit tu peux aller, faut aller très nord en fait, parce que ce qu'on pense, si tu veux, entre le sud et le nord, tu as une zone où le glaçon il est en train de fondre, et c'est là où il y a les plus petits icebergs. Et si tu vas très sud, tu as des gros glaçons, tu vois bien. Mais bon, t'as pas tellement envie d'y aller. Et si tu vas les gros, tu les vois. Mais bon, c'est une théorie, hein. C'est pas sûr que ce soit. Et donc, elle est assez logique cette théorie, mais.
En gros, les glaçons sont plus gros. Mais est-ce qu'on a la certitude qu'il n'y a pas des petits qui sont en train de se détacher du gros? Il y en aura certainement moins de petits dans le sud que dans le nord, que dans le nord intermédiaire, mais il peut y en avoir quand même. Après, il y a les systèmes météo qu'il ne faut quand même pas oublier. Système météo, à un moment très sud, on commence à pas être du bon côté de la dépression. Ouais. Donc on ne pourra pas non plus aller extrêmement sud. Après, il y a l'état de la mer. L'état de la mer, mine de rien, plus on va vite, plus c'est des bateaux volants, plus la différence entre une bonne mer et une mauvaise mer fait une grosse différence en termes de vitesse, quoi. Là, on peut gagner 5-6 nœuds juste parce que la mer, elle a 2 mètres de moins. Quand on vole, et donc on est capable de voler, par exemple, et on n'est pas capable dans la grosse mer. Donc là, où le bateau le plus vite aujourd'hui, c'est 18-20 nœuds de vent. Parce que la mer est maniable et que le vol est stable, etc. Ça va beaucoup plus vite qu'avec un vent à 26 nœuds, 27 nœuds, hein, de façon assez claire, quoi.
Et en plus,
donc malheureusement, malheureusement, ça nous fait une route plus longue, avec des vents plus maniables et une mer plus confortable. Mais comme dit Charles, quand on fait les statistiques de routage, vaut mieux faire une route courte qu'une route rapide. On verra, hein, franchement, on n'en sait pas trop encore. C'est la première fois qu'on fait le tour du monde avec les bateaux volants.
La barre est haute.
Et puis on voit que les décisions de routage, elles sont vraiment multifacteurs. État de la mer, glace, donc forcément complexe.
Est-ce qu'on peut peut-être passer à la technique du bateau et cette fameuse asservissement des foils?
Asservissement des foils, d'abord. Comment on peut expliquer ça simplement?
Franck, il est bon pour ça. Il est très pédagogue.
Déjà, le bateau ne se résume pas à l'asservissement. C'est loin de là. L'asservissement, il est en développement sur le bateau. Il a été imaginé effectivement assez tôt. Entre l'imaginer, mettre en place le système. Parce que l'asservissement, il y a deux choses dans l'asservissement. Il y a la partie commande. La partie commande, c'est une boucle fermée, comme l'est le pilote automatique qui a sur tous les bateaux depuis quand même 40 ans. Et donc il y a déjà un asservissement sur tous les bateaux, il faut quand même se le dire. Sauf que c'est un asservissement pour régler le lacet, donc le cap du bateau. Aujourd'hui, comme les bateaux volent, on a, en plus du lacet, on a besoin de régler aussi l'assiette en trois dimensions, non plus en deux dimensions sur une surface. C'est pour ça que l'idée de l'asservissement, comme vous l'imaginez, parce que vous imaginez l'asservissement sur le contrôle de l'assiette du bateau, ce que je veux dire, c'est que l'asservissement, qui est la définition de l'asservissement, c'est faire une boucle fermée sans avoir action humaine dans cette boucle pour la commande. Donc ça existe depuis très longtemps sur le pilote automatique.
Donc,
et c'est le fait de voler qui a poussé les réflexions sur aussi un pilote automatique sur l'assiette, sur les autres appendices qui permettent de toucher à l'assiette en trois dimensions du bateau. Donc c'est une évolution qui est liée à l'évolution technique du bateau. Mais le bateau n'a pas été conçu en disant ça va marcher à la mise à l'eau et on va faire un bateau qui va marcher uniquement parce qu'il y a ce contrôle automatique. Déjà parce que le règlement effectivement ne le permet pas tout le temps, donc ça le permet sur les records. Et en plus, en développant, on ne sait pas si le fonctionnement va être suffisamment correct, notamment dans la mer, qui va avoir assez de réactivité. Donc le bateau n'a pas été conçu comme ça, ça veut dire qu'il est autostable avec une certaine stabilité, sans aucun réglage en dynamique des appendices. Mais c'est sûr qu'avec un réglage en dynamique plus important et qui correspond à chaque vague ou à chaque risée, la stabilité va s'en trouver améliorée, la sécurité va s'en trouver améliorée, la performance qui est toujours liée à la stabilité et à la sécurité va être améliorée aussi. Donc c'est un élément de sécurité avant tout, un élément de sécurité point solitaire. Je pense que la partie solitaire sera beaucoup plus bénéfique quand il aura son asservissement que sans. Et pour l'équipage, c'est bénéfique, mais c'est encore en développement, comme l'est beaucoup d'ailleurs les pilotes automatiques de base. Aujourd'hui, vous pouvez parler aux skippers des IMOCA et du Vendée Globe, ils sont toujours en train de développer des pilotes pour avoir des pilotes qui se rapprochent encore plus de la performance du barreur.
C'est une clé de performance.
Et voilà, donc c'est... voilà la genèse du truc. Où on en est, nous, c'est que... c'est qu'on développe, en parallèle du pilote automatique, on a aussi bien développé depuis l'an dernier, du pilote en lacet, je veux dire, on développe aussi un contrôle avec une boucle fermée sur les appendices qui sont contrôlables. Et donc il y a la partie commande dont je parlais, et puis il y a la partie énergie, parce que comme le pilote automatique a de l'énergie non humaine qui va bouger les safrans, là il y a une énergie non humaine qui va bouger les flaps, qui permettent cette régulation de l'assiette.
Donc des flaps, c'est des plans porteurs.
Et cette énergie non humaine, voilà, il faut la trouver. Elle est pas, on n'a pas un puissant fond d'énergie à bord, et donc il y a aussi une contrainte pour trouver cette énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne bouge pas les foils, par exemple. Parce que les foils, c'est tellement énergivore qu'on ne peut pas réguler au foil comme on le fait à la Coupe d'Amérique.
Les plans régulateurs, c'est lesquels?
C'est les plans où il y a des flaps. Et aujourd'hui, c'est le plan central.
Les trois safrans et la dérive.
Ouais. Où il y a moyen de faire l'asservissement, où il y a moyen de faire cette boucle fermée, parce que l'effort est très faible pour bouger ces appendices.
Les foils eux-mêmes, leur incidence, elle n'est pas manuelle quand même, elle est hydraulique, mais c'est vous qui...
Elle est manuelle, dans le sens où l'énergie qu'on y met, c'est l'homme qui la met, et par l'intermédiaire de l'hydraulique, ça reste l'énergie humaine.
Ouais.
Ça, c'est lourd, bouger un rail de foil, c'est lourd. Bouger un petit flap, c'est léger.
Et tu dis, par exemple, depuis la Brest Atlantique, depuis l'année dernière, votre système d'asservissement, il a beaucoup évolué, vous l'avez fait beaucoup progresser, ou est-ce que c'est...
Oui, en fait, c'est l'algorithme qu'on fait évoluer, parce que finalement, le fonctionnement, on l'avait basé.
Et comment vous faites? C'est en naviguant?
Alors, en naviguant, nos sensations... En fait, on essaye de reporter le geste que nous, on ferait manuellement, si, comme on le pourra améliorer le comportement du bateau, donc c'est ça qui est vachement intéressant. Mais on travaille aussi beaucoup sur le pilote en lacet, parce que finalement, aujourd'hui, il y a presque plus de gains à avoir le meilleur pilote en lacet, parce que c'est lui... C'est ce que fait le barreur aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, quand on barre le bateau, on marque en lacet. Après, on peut donner des consignes à un équipier pour régler l'assiette, mais on est en manuel. Mmh. Et après, soit on le fait en asservissement. En fait, l'asservissement, il sert à gérer le trim du bateau et la gîte.
La plupart du temps, aujourd'hui, il n'est pas 24 heures sur 24. Non. C'est un gain dans certaines conditions. On a un développement qui nous permet d'avoir ce gain à certaines conditions. On n'a pas encore un développement qui nous permet d'avoir un gain à 100% des conditions.
Ouais.
Et c'est, Et on l'a fait évoluer très récemment. Pour avoir un bon asservissement, il faut aussi avoir des bons capteurs, puisque la boucle fermée, ben, les entrées, c'est quand même les capteurs, capteurs de gîte, capteurs d'assiette, capteurs de hauteur de vol, pourquoi pas. Et c'est avoir un algorithme avec, avec les résultats de ces capteurs pour donner une commande à chaque flap. Quoi. C'est quoi, c'est ça le principe de base d'un asservissement. Et donc il faut que tous les ingrédients de cette boucle ils soient performants. Et...
Ah mais volontiers, bah, on va aller.
Vous venez avec nous déplacer.
On va aller voir ça, on va aller voir ça à bord, directement, volontiers.
Bon, et on vous expliquera plus à bord.
Ok.
On vous a déjà tout dit.
Ici Radio Ponton.
Attends, j'en ai venu.
Donc là on est à bord d'Edmond Rothschild, le maxi Edmond Rothschild, alias Gitana 17. Bon, on va juste le déplacer, changement de place au port pour des raisons logistiques. Mais bon, rien que ça, c'est une opération, il y a deux gros ribs, deux grosses semi-rigides. Ils se parlent tous avec des petites oreillettes. Et alors voilà, on voit les ossières reviennent directement dans le cockpit. Tout le monde se coordonne et c'est parti, allumage du moteur.
En fait, Franck, t'as besoin de la barre pour cette manœuvre ? Non.
Un petit peu, ouais. Parce que la moment en avance. C'est juste faire du slider et revenir.
Il y a d'autres catégories de bateaux qui peuvent être inspirants.
Bah, tu vois, là, hier, on était les Timoka, parce que les problèmes qu'on a sur les foils, on a les mêmes problèmes. Ils ont de la ventilation, ce qui est un peu différent de la cavitation. On a plus de problèmes de cavitation à haute vitesse. Donc avec cavitation, c'est une bulle d'air qui se forme dans l'eau, parce que tu sais, et la ventilation, c'est de l'eau qui arrive, l'air qui arrive par en haut. Donc, mais on regarde ce qu'ils font pour essayer de comprendre, et puis on ne sait jamais, à un moment, si on veut faire un IMOCA, il faut... T'as toujours des trucs intéressants, quoi, et nous, on a des retours de la coupe aussi par Guillaume Verdier, on a fait des modifs sur nos foils qui sont issus de ce qu'il a vu sur la coupe, donc tu t'apprends toujours des choses. Franck sur les AC, il a fait pas mal beaucoup d'études à haute vitesse, donc le problème qu'on rencontre maintenant à des vitesses qui approchent celles des AC, bah, il est capable de les analyser, de dire bah, nous on avait fait ça pour corriger ce problème là de cavitation.
Pour eux, entre
aujourd'hui la cavitation à un moment elle est là quoi, parce que t'arrives à une vitesse et en fait pour gagner de la vitesse il faut retarder la cavitation. Et c'est difficile parce qu'on fait des foils qui vont vite. Avant, le bateau, il était plutôt fait pour aller de 25 à 35 nœuds, 37 nœuds. On n'imaginait pas qu'on irait à 40 tout de suite. Ouais. Le foil n'a pas été optimisé pour ça. Puis tu comprends bien que tu ne peux pas faire le même foil pour aller à 25 nœuds que pour aller à 45.
C'est vrai que le profil se modifie à haute vitesse.
Bah, c'est un peu comme les ailes d'un avion. Quand il va très vite, certains avions peuvent les réduire.
Parce t'as que pas des composites dont la forme peut évoluer sous
pression. Non, mais après, à force de trouver, on arrive à faire des impendices qui font un peu les deux. Ouais. On a progressé. Là, aujourd'hui, on en a... On avait un foil V2, on l'a retardé, et on a bien fait parce qu'on n'a pas forcément choisi de le retarder parfois, mais en fait on a appris tellement de choses, et on a compris tellement de choses avec ces foils-là, qu'on a encore fait évoluer notre foil, mais c'est pas bon de 1 nœud, tu vois. Et on sait faire un foil qui va vite à 45 nœuds, mais qui va vite à 45 et à 25.
Par contre, tu vas décoller plus tard si tu fais un foil qui va vite à 45
nœuds. Non, bah ouais, mais justement c'est ça qu'il faut. Faut pas oublier que 45 nœuds. C'est des vitesses qu'on fait sur mer plate quand on se fait plaisir. Ouais. Mais quand on va faire le Jules Verne, les 45 nœuds, on ne va pas souvent les taper parce qu'il faut la mer, il faut tout, il faut beaucoup de choses. On ne sait pas encore faire 45 nœuds dans 4 mètres de mer, ça viendra. Hein, mais, donc 45 nœuds, c'est des top speed, mais on navigue pas comme ça. Voilà, on a fait effectivement des runs à plus de 40 nœuds sur la Dream Cup, parce que c'était la Dream Cup, ouais. Parce qu'on avait une mer plate, du vent de nord-est, mais ce n'est pas des conditions de large. Donc nous, il nous faut plutôt un foil qui fonctionne bien entre 25 et 37-38 nœuds. Et c'est déjà plus facile. Et on essaye de faire un foil qui va plus vite, parce qu'à un moment, si on a commandé top speed, on va augmenter nos moyennes. Mais on ne veut pas perdre à 25 nœuds, parce que quand on commence à décoller, on gagne tellement, si tu veux. Donc il faut toujours voler à 27-28 nœuds. Et si on pouvait voler à 25, on le ferait. Maintenant, c'est le poids de notre bateau à un moment qui va nous poser un problème. Mais on va le chercher. Je veux dire, je pense dans le futur, les prochains bateaux, les massifs qui vont sortir, et j'espère qu'ils voleront plutôt que nous, parce que pour eux quoi. Mais c'est pas facile.
C'est quoi ces boucles-là que tu as mis ?
Ça, c'est la commande de gaz.
Ok, ok, ok.
Et ça, c'est avant, arrière.
Excellent. Inverseur et manette de gaz en cordage.
Voilà. C'est plus léger que les grosses commandes métalliques.
Ok, c'est bon derrière, c'est bon devant, on commence à avancer. Vas-y, avance. Arrêtez de tirer.
Alors, c'est qu'une petite manœuvre de port. On fait 150 mètres, mais il y a quand même une certaine tension parce que c'est un sacré engin, quoi. Il faut avoir l'œil à tout. Ça va, il n'y a pas de vent, mais on les sent quand même hyper concentrés.
Aujourd'hui, en aéro, qu'est-ce qui vous freine? Quels sont les endroits du bateau qui vous freinent encore et sur lesquels vous aimeriez?
Cette partie-là, qui est un peu une verrue qu'on peut passer.
C'est l'épaulement du cockpit, quoi. La barre du T du cockpit.
Tout freine en aéro, sinon on irait beaucoup plus vite. Mais... Étonnamment, en carénant les bras avant ou arrière, il y a quelques parties qui sont propulsives parce qu'il y a un angle d'attaque qui se crée avec l'interaction avec les voiles. Et du coup, l'angle d'attaque fait qu'il y a des parties qui sont propulsives sur les bras. Sinon la coque, le cockpit et les flotteurs ils traînent pas mal.
Des parties des bras qui sont propulsives,
ouais.
Lesquelles par exemple?
Comme les voiles créent une énorme dépression sous le vent et une énorme surpression au vent, cette dépression elle se combine avec les pressions qui sont sous le bateau. Et entre cette dépression dépression qui est au-dessus du bateau et cette surpression qui est en dessous, ça, avec une incidence qui va bien, ça fait comme si c'était une voile, mais inclinée horizontale, quoi.
Mais, tu veux dire que le bras te fait voler un peu, quoi, sous le vent.
Te fait voler, et même il y a une orientation de la force qui est même vers l'avant.
Je vais découvrir. Je fais un petit tour à l'intérieur.
Donc à l'avant du cockpit, on entre dans un petit poste navigation avec. Le gros écran, clavier, bon, tout pour faire la nav. Deux postes de veille, deux de repos. Donc là, on est dans l'avant du cockpit, mais on est encore en haut. Quand on descend, déjà, il faut descendre, c'est quand même assez acrobatique. Donc, je descends dans les entrailles d'Edmond. Edmond de Rothschild. Alors là, c'est la caverne. C'est tout noir. Oh, pétard. Donc je vous décrirai bien, mais... Mais c'est vraiment très sombre. Enfin, je vois quand même qu'il y a des bannettes. Il y a de l'électronique absolument partout. C'est Star Trek. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu un vaisseau spatial. Et à l'arrière, pareil. Il y a le moteur. Mais il y a de l'électronique absolument partout. C'est vraiment impressionnant.
Ça clignote. Dans le noir, on ressort qu'il y a un répétiteur. Et des petites lumières bleues, des petites lumières vertes. Ah ouais, c'est Star Trek.
Ah mais ils vont être bien là pendant le trophée Jules Verne.
Au moins il fait noir pour dormir.
ouais, impressionnant.
Ce qu'on n'imagine pas là, c'est le bruit, moi je trouve. Ouais. Le pire, c'est le bruit. C'est usant, c'est stressant par moment quand t'es dedans, tu sais pas ce qui se passe dehors et que ça commence à siffler.
Mais du coup,
Ouais, on a des trucs, mais même ça, déjà c'est 24h sur 24.
Bouchon d'oreille, non
de
ouais, indispensable. Ouais.
La configuration du cockpit, elle a pas, vous l'avez pas fait évoluer en vue du Jules Verne, c'est la même que l'année dernière?
Oui, c'est la même que l'an dernier, parce que l'an dernier, comme on disait, on était à deux, on pouvait être à deux souvent sur le pont, donc là on va être aussi à deux souvent sur le pont entre le barreur qui est ici et qui est à côté de celui qui est entre les winches et ça lui permet de lui donner les consignes entre les winches. Alors il est entre les winches, il est aussi avec toutes les commandes hydrauliques qui permet de régler les incidences des appendices. Donc tout est à portée de main avec une seule personne entre les winches et entre les colonnes. Donc il est bien, je trouve qu'il est bien condensé et assez efficace cette forme de cockpit en longis.
Les vélos, c'est fini, quoi. On revient en bas.
Et les vélos, il n'y a plus de place, quoi. Alors on fait les vélos à terre.
On fait assez à terre.
C'est un souvenir. Ouais, tu roules beaucoup?
Je roule pas mal.
Tous les jours.
Non.
Tu fais que de la route ou tu fais du VTT?
que de la route pour l'instant. Mais il m'a donné le goût de faire du VTT, donc je vais aller le défier sur son terrain. Vite.
Bon, en tout cas, merci les gars d'avoir un peu ouvert la porte et montré tout ça. Super intéressant.
Les mecs sont tarés. Ils ont presque l'air de trouver ça normal.
Radio Ponton.